L'hebdo politique.
Bonsoir et bienvenue sur Radio Sensation. Vous êtes dans l'hebdo politique où ce soir je reçois Jean-Hugues Bonamy, maire de Bernay, vice-président du conseil départemental de l'Eure.
Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.
Monsieur Bonamy, vous avez 59 ans, vous allez prendre une bougie de plus, je crois, à la fin du mois de janvier. Vous êtes marié, vous avez deux grands enfants, diplômés des grandes écoles. Vous êtes vous-même diplômé d'une école qui est spécialisée dans les hautes études économiques. Vous avez suivi un parcours professionnel dans le milieu des assurances. Vous avez été conseiller municipal, adjoint aux finances, maire par intérim avant votre élection comme maire de Bernay. C'était en mai 2016, c'est pas si vieux. Candidat sous l'étiquette UDI Les Républicains suite à la démission du sénateur Hervé Maurey. Vous avez été président de l'intercom des 5B. Vous êtes actuellement quatrième vice-président du département de l'Eure et premier vice-président de la nouvelle intercom Bernay-Terre de Normandie, en charge de l'économie, de l'aménagement du territoire et du pacte financier. Entre autres, monsieur Bonamy, bonsoir.
Bonsoir.
L'hebdo politique sur Sensation Normandie.
Une première question d'actualité nationale. Un an de présidence Macron, presque autant de lois votées, d'amendements passés. Quel regard sur la politique de notre jeune président vous portez? Quel bilan on peut en tirer dans nos campagnes, dans une ville moyenne comme celle de Bernay? Est-ce que ça va vite? Est-ce que ça va un peu trop vite actuellement?
Écoutez, je ne sais pas si on peut dire que ça va trop vite. On sait très très bien qu'un président, il a quelques mois pour affirmer sa politique à la suite des élections. Je crois que les différents mandats des anciens présidents nous l'ont prouvé. Il est temps que ce pays décide enfin de se transformer. Je pense qu'on a toutes les capacités et toutes les qualités pour pouvoir s'adapter à un nouveau monde qui, autour de nous, évolue très rapidement. Donc, dire que ça va trop vite, je ne sais pas. Je pense qu'on avait peut-être pris du retard depuis un certain nombre de décennies. Bah, aujourd'hui, est-ce qu'on peut rattraper ce retard? Je l'espère. Je suis confiant. Je pense que les Français, c'est un peuple qui est capable de réagir. C'est un peuple qui est capable d'innover. Eh bien, montrons-le que nous sommes capables de réagir, d'innover, de se transformer. Je crois que tout le monde, quel que soit au niveau privé comme au niveau public, on a vraiment besoin d'évoluer.
Est-ce que vous êtes impacté, vous, dans la vie de tous les jours, en tant que maire de Bernay, avec cette nouvelle politique, ou pour l'instant, on n'a pas encore les véritables effets?
Ben, on commence à être impacté, puisque on le voit très très bien. Regardez ce qui s'est passé au niveau des emplois aidés. Donc, il y a un impact direct. Alors, même si la ville de Bernay n'avait pratiquement pas d'emplois aidés, puisque nous en avions exactement deux. Donc, mais pour autant, les associations sont directement impactées. Donc, on commence à être impacté. Maintenant, il va falloir laisser encore un peu de quelques mois pour que tout ça se mette en place.
Alors tout est bon dans le Macron, disent certains, loi travail, CSG, suppression des APL, là aussi ça grince un peu, le français n'est pas véritablement pour les réformes quand ça le touche directement. Il faut passer par là aussi, il faut tout d'abord rentrer dans le vif du sujet.
Je crois que personne, tout le monde est, alors, tous les Français sont pour les réformes, ils l'ont montré, la preuve, regardez.
On est surtout pour la révolution.
On est d'accord pour les réformes, à condition que ça soit d'abord le voisin d'à côté qui soit directement impacté. C'est vrai que quand on est dans un certain confort, même si tous les jours on râle, c'est notre caractère, nous sommes des latins, pour autant, à un moment ou à un autre, eh ben, il faut passer aux travaux pratiques. Travaux pratiques, ça veut dire que ce qu'on réclame depuis des décennies, ben, il faut peut-être le mettre en place.
Vous comptez parmi vos amis, entre guillemets, vos amis politiques, Hervé Morin et Sébastien Lecornu, le premier président de région, le second après avoir été président du département de l'Eure et maintenant secrétaire d'État. Nomination sous l'aspiration, disent certains, du député Bruno Le Maire. Ça vous a chagriné? Ça vous a rendu pragmatique ou ça vous a rendu enthousiaste?
Alors, cette nomination de M. Lecornu, ça ne m'a pas chagriné, ça ne m'a pas rendu particulièrement enthousiaste. Sébastien Lecornu a la particularité, il y a peu d'hommes comme lui quand même, regarder à l'âge qu'il a, son parcours. Alors effectivement, c'est un homme politique, mais pour autant, c'est pas qu'un homme politique. C'est un homme qui met en place et qui a souhaité, au sein du département de l'Eure, mettre en place des réformes et des réformes fortes. Tant mieux pour Sébastien Lecornu, puisque je pense qu'il a, il a la carrure pour tenir ce type de poste. Voilà.
Certains disent que M. Moret attendait aussi une nomination.
Alors ça, je ne peux pas vous le dire. Vous lui poserez la question directe. Je ne suis pas certain qu'il attendait particulièrement une nomination.
On parlait de M. Lecornu, qui était président du département de l'Eure. Il y a eu notre confrère La Dépêche qui a commis un article la semaine passée. C'était le 10 novembre. La Chambre régionale des comptes aurait épinglé le département de l'Eure pour ses dépenses sociales. Ça serait un frein, justement, pour le développement du département. Notamment
écoutez,
le RSA.
Écoutez, je pense que toutes les dépenses sociales dans tous les départements de France, je ne dis pas que c'est un frein, c'est un vrai sujet d'actualité. Je rappelle que le département de l'Eure, c'est 79 millions d'euros qui sont versés tous les ans au niveau du RSA. En 2016, ça devait être 72 millions, donc presque 7 millions de plus en sur une année. Ça prouve bien qu'il y a un réel souci dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire, et particulièrement dans le département de l'Eure, plus de 13 000 allocataires. C'est laisser autant de gens comme ça sur le bord de la route, où on est obligé de les accompagner, c'est pas normal dans un pays aussi industrialisé comme le nôtre, qui faisait partie à une époque des 5 grandes puissances mondiales. Je pense qu'il y a un vrai travail là. Il faut revoir les choses, parce que vous l'avez pas signalé, mais ça avait été signalé il y a un certain nombre de mois, qu'il fallait aussi regarder un petit peu à qui étaient versées ces sommes-là. Et puis, ne pas non plus, je dirais, alimenter... alors, je sais que c'est... Il faut faire attention aux mots que l'on emploie, mais alimenter quelquefois des personnes qui sont inscrites sur deux territoires. On s'est aperçu que dans les contrôles, il y avait des gens qui touchaient le RSA dans le département de l'Eure, puis d'autres qui le touchaient, qui les mêmes personnes qui le touchaient dans d'autres départements. Donc, il y a un contrôle à faire. Aujourd'hui, 79 millions d'euros, c'est un chiffre non seulement important, mais le montant sur le budget du département, sur le social, c'est pratiquement la moitié du budget du département. Mmh. Sur un budget à 600 millions, on est à 250 millions, rien que sur le social, sur l'ensemble des c'est vraiment impactant. Donc, il y a un vrai travail à faire.
Une question un peu plus personnelle sur votre famille politique, qui est toujours l'UDI.
Oui.
Famille qui veut être au centre, mais au centre de quoi actuellement ? Est-ce qu'on pèse sur la vie gouvernementale ? Est-ce que vous avez l'impression que les centristes sont pleinement impliqués actuellement dans le bateau Macron ?
Alors, c'est vrai que...
Vous êtes plutôt spectateur ?
Spectateur, c'est facile de se dire d'être ouais. spectateur. À un moment ou à un autre, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de regarder les choses en face. Moi, j'ai toujours été plus sur ce qu'on appelle... je pense qu'il y a des bonnes idées des deux côtés. Alors, on va vous dire, on se met ni à droite ni à gauche. Non, j'ai une sensibilité de droite, je l'affirme, je l'ai toujours affirmé. Par contre, je pense qu'il ne faut pas rejeter massivement les bonnes idées, qu'elles viennent de la gauche ou qu'elles viennent de la droite. Il faut travailler ensemble. Aujourd'hui, on le voit bien. Regardez, certains pays l'ont compris. L'Allemagne, ils ont compris qu'il fallait avoir une politique, je dirais, qui permettait d'écouter à la fois ce qui se faisait chez les conservateurs comme... de tous côtés. Il faut regarder un petit peu les choses. Il ne faut pas oublier qu'à un moment ou à un autre, on n'avance pas si on est uniquement un ou deux. Il faut que l'ensemble des partis politiques soient capables de discuter entre eux et que ça ne soit pas la guéguerre qu'on a eue pendant des décennies, c'est-à-dire tout quand c'est la droite au pouvoir, elle démontre ce qu'a fait la gauche et vice-versa. Je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions. Aujourd'hui, moi, dans cette famille politique du centre, je pense qu'il y a des bonnes choses des deux côtés. Moi, j'attends de voir ce que va faire Emmanuel Macron. Aujourd'hui, très honnêtement, quand il s'est présenté, je me suis dit quel est son est-ce qu'il sera capable de, qu'est-ce qu'il sera capable de faire? À la surprise de tout le monde, sauf dans les derniers mois, il a été élu président de la République. Moi, je souhaite qu'il réussisse. Je souhaite qu'il réussisse pour une seule chose. Parce que si Emmanuel Macron ne réussit pas, ça veut dire que la France sera de nouveau en échec et je suis pas certain qu'on soit capable de supporter un nouvel échec. Et on l'a bien vu ces 30 dernières années où finalement, on a fait un pas en avant et bien souvent deux pas en arrière.
Une dernière question nationale. On vient de célébrer là, ces jours récents là, les attentats du 13 novembre 2015. Comment vous jugez la politique sécuritaire nationale actuellement qui est mise en place justement par le gouvernement Macron? Est-ce que vous sentez avoir une liberté d'agir dans une commune comme Bernay pour que les gens se sentent en sécurité?
C'est compliqué de juger une politique... par rapport à ce type d'événements. C'est des événements qui, malheureusement, risquent de se reproduire sur notre territoire. Si je prends le cas de la ville de Bernay, on a des exigences aujourd'hui qui viennent de la préfecture et ça me paraît tout à fait logique. On essaye de les mettre en place. C'est vrai que c'est compliqué, c'est lourd aujourd'hui pour organiser une manifestation. Dès qu'il y a du public, on est obligé de prendre un maximum de précautions. C'est des coûts supplémentaires pour les collectivités. Mais pour autant, on doit être vigilant parce que on voit bien, on est le lendemain des anniversaires du Bataclan et de tout ce qui s'est passé en 2015 sur Paris. Et c'est vrai que si on ne veut pas que ça se reproduise, il faut être vigilant.
Vous avez eu des exercices dans les écoles, je crois, à la rentrée scolaire?
Oui,
ça s'est bien passé.
S'est bien passé, mais on se remet en cause sans arrêt. Et on travaille avec les services, notre police municipale, la gendarmerie, on travaille ensemble. On travaille avec les services de la préfecture pour qu'à chaque fois qu'on met en place un événement, on essaye de faire en sorte que tout soit sécurisé.
On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission de notre hebdo politique.
L'hebdo politique.
Retour avec l'hebdo politique où nous recevons M. Jean-Luc Bonamy, maire de Bernay et vice-président du département. Justement, vous êtes quatrième vice-président en charge des grandes infrastructures, de la voirie, des transports et de la mobilité. Ce sont des gros dossiers. Grosses attentes également dans un département en pleine mutation et en recherche d'images. Le département gère au quotidien un réseau routier de 4365 km. Est-ce que ce réseau est de qualité? Est-ce qu'on ne va pas vers de désagréables surprises avec l'hiver qui approche et qui s'annonce difficile?
Alors, déjà, ce n'est pas tout à fait 4300 km, puisqu'il y a un certain nombre de kilomètres de voirie départementale qui ont été cédés aux collectivités. La ville de Bernay a récupéré un certain nombre de kilomètres de voirie. On est un petit peu en dessous de 4200 km. Pour autant, c'est un réseau qui, aujourd'hui, je dirais, est relativement bien entretenu. On a voté en 2016 ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement sur les routes, 125 millions pour la mandature 2017-2020, même 21. Il y a des gros travaux qui sont mis en place sur ce qu'on appelle les axes structurants, c'est-à-dire les anciennes nationales, qui sont aujourd'hui des départementales, la 613, la 413. Il y a des gros travaux qui vont intervenir et qui sont déjà mis en place par les équipes du département. Pour des travaux de sécurité, parce que avant tout, il faut permettre aux Eurois de circuler sur l'ensemble de ce réseau en toute sécurité. On s'aperçoit qu'il y a 72% des Eurois qui prennent un véhicule pour aller sur leur lieu de travail. Donc c'est important. Donc il faut sécuriser nos voies, sécuriser les voies où il y a le plus de trafic, c'est-à-dire qu'on a un axe qui n'est pas très loin d'ici, qui est la 613, l'ancienne Nationale 13, qui sort du département du Calvados et qui va en direction d'Evreux. Il y a des gros travaux qui ont été engagés. Hier, je me rendais sur Évreux et déjà, les travaux interviennent sur cet axe. Il y a ce type de travaux. Il y a aussi des travaux importants sur des contournements de petites agglomérations ou d'agglomérations ou de collectivités qui posaient problème. Donc ces travaux continuent. Je pense à la déviation de Bois-Achard. Je pense aux travaux qui ont été terminés sur la côte de Corneville, à côté de Ponteau de Mer. Je pense aussi à Beuzeville, bien sûr. Et puis des travaux qui sont faits aussi avec la partie des travaux importants, c'est vous prenez la déviation d'Evreux, la fameuse le fameux viaduc ou le pont, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un viaduc plutôt. Ces travaux qui sont le maître d'ouvrage chez l'État et on participe à ces travaux-là aussi. Et puis nous avons aussi des travaux sur certains axes structurants comme les autoroutes qui sont des axes qui sont confiés à des, par l'État à des partenaires privés, des concessionnaires exactement. Et nous, on a installé un certain nombre d'aires de covoiturage. Aujourd'hui, on a à peu près 400 places de covoiturage sur ces axes-là.
On est en retard au niveau national.
On n'est pas si en retard que ça. Quand vous regardez ce qui se passe sur d'autres départements, on a bien rattrapé notre retard. C'est important puisque on prend celui qui se trouve à Maison Brûlée, qui est à la limite du département de l'Eure et de la Seine-Maritime. Il y a une centaine de places. Il y a celui de Douin où il y a une quarantaine de places. Ce sont souvent des aires de covoiturage qui sont protégées aussi par de la vidéo protection. Donc c'est important. Et puis il y a de l'accompagnement aux collectivités sur les voies douces, sur la sécurisation à l'intérieur des villes et tout. Donc il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place puisque je vous rappellerai qu'il y a eu deux plans pluriannuels qui ont été votés par, en plénière par le département. C'est à la fois sur les collèges et sur les routes. Donc c'est un axe important.
De par vos compétences, vous avez un pied sur la route et un pied dans le train. Oui. Certains disent qu'on a plus de chances de voir le Loch Ness arriver plutôt que la ligne nouvelle Paris-Normandie. On en est où là ? Vous aviez une réunion il y a quelques semaines.
Oui, alors aujourd'hui, aujourd'hui c'est une réponse qui sera donnée par, par l'État. C'est-à-dire que les régions, la région Normandie, la région Île-de-France, plus l'ensemble des collectivités, les agglos, que ça soit Rouen, Le Havre, travaillent sur ce dossier déjà depuis, depuis de très nombreux mois. Il y a des réunions régulières. La dernière réunion s'est passée à la région Île-de-France, où un certain nombre de faisceaux de passages ont été actés. Pour autant, maintenant, qu'est-ce que va décider l'État ? Les crédits seront-ils débloqués ? C'est vrai qu'à un moment ou un autre, si on regarde le trafic ferroviaire sur cette ligne qui va jusqu'à Saint-Lazare, la gare Saint-Lazare est la première gare en termes de trafic voyageurs en France. Il y a plus de presque 700 000 voyageurs jour. C'est vrai qu'à un moment ou à un autre, il faut intervenir. Il faut intervenir doublement parce qu'il y a un problème sur Saint-Lazare, le Mantois, ce qu'on appelle le Mantois. On le voit bien, on a des problèmes, nous, de retard de train. Il va falloir que... On mettait moins de temps il y a 20 ans pour aller à Paris qu'on en met aujourd'hui. Ouais. Donc il faut améliorer la desserte. Et puis derrière, je pense qu'il faudra, dans le temps, voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Alors c'est sûr qu'il y a une grosse attente sur la partie Seine-Maritime avec une desserte, une nouvelle gare sur Rouen, une desserte plus rapide pour aller sur Le Havre. Il y a une attente aussi sur une nouvelle gare à Évreux qui serait plutôt localisée sur Netreville. Tout le monde attend cette nouvelle ligne. Après, décision, elle sera prise au niveau national.
Ça sera sans doute le prochain gouvernement.
C'est possible.
Voilà.
C'est très possible.
L'emploi n'est pas de votre domaine de compétence, mais la mobilité, oui.
Oui.
C'est le premier bagage pour les jeunes en recherche justement d'emploi. De quel levier on dispose actuellement dans le département pour résoudre cette problématique pour les jeunes ?
Alors, il y a un dispositif qui est arrivé il y a peu de temps, qui a été annoncé, de permettre à des jeunes, le département accompagne les jeunes pour l'achat de la première voiture, oui. Finalement, pour leur permettre, parce que je vous le disais tout à l'heure, 72% des personnes dans le département se rendent sur leur lieu de travail avec un véhicule. Donc il faut accompagner les gens dans les mobilités, que ça soit au niveau départemental qu'au niveau local. Hein. La première cause, je dirais, de problème pour trouver du travail, c'est la mobilité. Donc il faut se mettre autour de la table et trouver des solutions. Ça, c'est une première solution. Mais il y a aussi toute la partie des transports en commun. La région est en train, puisque vous le savez, c'est... la région qui a repris la partie transport. Alors il y aura l'arrivée des nouveaux trains, qui, bien sûr, en 2020, mais aussi toute la mobilité entre les collectivités, mais aussi les départements, pour permettre aux gens de se déplacer le plus facilement possible et pour pouvoir aller sur leur lieu de travail.
La mobilité, justement, c'est dans votre ville que ça se passe. On va faire une halte à Bernay. Une question liée à cette mobilité qui a fait grincer quelques dents, sujet des nouveaux horodateurs. Ils sont en passe d'être installés. Prochainement, donc, pour remplacer les anciens qui fonctionnaient de manière un peu intermittente, certains sont en panne, notamment rue Leclerc, enfin le général Leclerc et place Sainte-Croix. Alors certains disent que ça va permettre à la municipalité de faire de belles recettes et surtout de sanctionner de manière un peu plus rigoureuse certains abus.
Non, le but du jeu, quand on change des horodateurs, c'est parce qu'en général, ils sont obsolètes. C'est pas pour uniquement faire augmenter les recettes. À Bernay, je rappelle que les 20 premières minutes sont gratuites. Quand vous arrivez sur un parking où, effectivement, il y a un horodateur, vous appuyez sur le bouton vert, vous avez 20 minutes gratuites. 20 minutes, ça permet quand même d'aller chercher la baguette de pain, d'aller, pour ceux qui sont fumeurs, d'aller chercher le paquet de cigarettes, voire d'aller faire une course rapide. Et puis après, quand vous regardez le coût du stationnement à Bernay, il est quand même très, très, très modeste. Mais à un moment, on a essayé de mettre en place, comme ça se fait dans beaucoup de villes, différents types de stationnement. C'est-à-dire l'hypercentre où, effectivement, il y a de la gratuité pendant 20 minutes, puis après, c'est payant. Et puis, on est en zone bleue, puis on a aussi des parkings gratuits. Je rappellerai qu'à moins de 300 mètres du centre-ville de Bernay, on a quand même... on est entouré de parkings gratuits. Le parking du pôle de la gare, c'est 185 places gratuites. Vous avez le parking de la place Paul Desroux, des Hauts-Panteurs, pardon, qui est gratuit. Il y a une centaine de places. Vous avez le parking gratuit qui se trouve à côté d'établissement Jeanne d'Arc, et où il y a pas loin d'une centaine de places aussi qui sont gratuites. Il y a quand même beaucoup de gratuité. La preuve en est. Le but du jeu, c'est pas... les recettes de la ville de Bernay sont pas uniquement basées sur les recettes des parcmètres.
Et votre collègue de Pont-Audemer, M. Leroux, qui dit que c'est anticommerçant.
Non, parce que j'ai eu l'occasion. Alors lui, là, il fait la zone bleue, mais quand vous changez pas votre disque, vous êtes aussi verbalisé, c'est la même chose. Je dis que, après, c'est un choix qui est fait, c'est un choix qui avait été fait par mes prédécesseurs de mettre une partie en payant. Je rappelle que ce choix avait été aussi demandé à l'époque par l'ensemble des commerçants qui s'apercevaient que finalement il y avait des voitures ventouses dans le centre-ville et que les voitures ne bougeaient pas du tout. Donc on n'est pas là pour sanctionner. Moi, je demande toujours aux équipes de la police municipale de faire de la prévention avant tout. C'est-à-dire, quand ils arrivent, avant de verbaliser, c'est de regarder si effectivement il y a la possibilité de trouver le conducteur de la voiture et tout. 9 fois sur 10, quand il y a des réclamations, on s'aperçoit qu'ils ont fait leur travail. Donc, dans toute municipalité, dans toute ville, vous aurez des gens qui veulent respecter, parce que aller appuyer sur un petit bouton vert pour avoir 20 minutes gratuites, c'est quand même pas très très compliqué. Hein.
Le problème de la santé, monsieur Bonamy, dans la ville, là, on en est où ? Les médecins arrivent, mais ils restent pas, etc. Est-ce qu'on va enfin avoir un médecin généraliste à temps plein ?
Alors,
de façon
vous savez,
durable
moi je suis très prudent avec le problème de la désertification, excusez-moi, médicale sur notre ville. Ça existe partout, dans toutes les villes, malheureusement. Moi, je m'en contente pas d'entendre ça. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que les nouvelles générations de médecins, ils veulent pas vivre de la même façon que leur père. C'est-à-dire qu'ils veulent plus faire 75 heures par semaine. C'est des gens qui veulent vivre à côté des agglos. Ils veulent pouvoir vivre dans des villes qui sont attractives, c'est-à-dire cinéma, sport. Ils veulent vivre une vie familiale beaucoup plus différente de ce qu'ont pu vivre leurs parents avant, et surtout les médecins. C'est compliqué, effectivement, c'est compliqué d'attirer dans nos régions des jeunes médecins. Pour autant, je reste persuadé qu'on n'est pas quand même des régions complètement désertiques. On vit quand même assez bien à Bernay. On est à 45 minutes de l'agglomération rouennaise. On est à 1h20 de Paris. On est à trois quarts d'heure de la côte. Je m'aperçois quand même qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent conscience que si on arrive à donner un peu plus d'attractivité à Bernay, de par
le multiplex cinéma,
le théâtre, plein de choses qui vont permettre aux gens de mieux vivre. Je rappellerai que sur le plan sportif, on a quand même 34 sections sportives sur Bernay. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire des kilomètres pour faire un sport et vous inscrire dans une association sportive. C'est vrai qu'on n'aura jamais un zénith à Bernay. C'est vrai qu'on n'aura jamais un zénith de 10 000 places. C'est vrai qu'il y a certaines manifestations, si vous voulez les voir, où il faudra aller sur ces grosses agglomérations. Ça a toujours existé. Pour autant, moi, je reste persuadé qu'on a une carte à jouer. Et moi, au niveau de la municipalité, je fais tout pour que notre ville devienne de plus en plus attractive. Et j'espère que dans le monde médical, il y aura des jeunes médecins qui s'apercevront que finalement, c'est peut-être pas plus mal de vivre dans une ville comme Bernay. Il y a tout, il y a des lycées, il y a des collèges, il y a des écoles. Si on a besoin de prendre sa voiture ou les transports en commun, on se retrouve très proche d'agglomérations et que la vie, finalement, elle n'est pas si mauvaise que ça dans nos villes.
On est arrivé pratiquement au bout de notre émission. Certains vous avez classifié de silencieux, voire de taiseux avec la presse. C'est pas le cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le parrain de cette hebdo politique. On vous en remercie. Qu'est-ce que vous allez faire en sortant des studios, là?
Écoutez, vous voyez, j'ai un rendez-vous avec le secrétaire général de la préfecture à mon bureau dans quelques minutes. Donc, écoutez, je vais aller honorer ce rendez-vous. Merci à vous de m'avoir accueilli.
Merci Jean-Luc Bonamy d'avoir été le parrain donc de notre hebdo politique. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr.
Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.